Quelles que soient les épreuves, et même les plus terribles, qu'un juif peut traverser, doit se souvenir cet enseignement du Rabbi, selon lequel la plus grande joie d'un juif, c'est de savoir qu'il reste lié à Dieu, même quand il traverse justement les épreuves les plus terribles. Donc le lien qui nous unit au Saint béni soit-il, c'est précisément le sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque dans une sicha, le Rabbi nous enseigne que toute sa vie, Rabbi Shimon était uni à Dieu, mais le moment où son âme a quitté ce monde, il était uni à lui d'un lien immense. Il était uni comme une fusion avec Dieu. C'est-à-dire que toute sa vie, il était attaché au Saint béni soit-il, il s'est forcé de s'attacher à Dieu, mais le jour où son âme a quitté ce monde, il a vraiment connu un lien qui était au-delà de toutes les limites. Il s'est véritablement uni au Saint béni soit-il. On raconte même que son âme a quitté ce monde, tous ses élèves étaient l'entourés, ils étaient autour de lui. Et avant de partir donc de ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé des secrets de la Torah qu'il n'avait jamais dévoilé auparavant. Et on dit que le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, était lui-même venu écouter les chidushim et les enseignements de Rabbi Shimon. Donc ce lien-là qui unit Rabbi Shimon Bar Yochai au Saint béni soit-il, ça nous sert à nous-mêmes d'exemple. Le Rabbi nous donne trois types d'attachement à Dieu. Le premier, c'est la dvekut. Alors il prend l'exemple d'une ceinture, une ceinture qu'on va apposer contre le corps autour de vraiment de pour vraiment attacher cette ceinture là autour de notre corps, mais elle est simplement posée, dvekut. Ensuite, il parle de hitkashrut, c'est le fait d'unir deux morceaux de corde l'un avec l'autre et de faire un nœud pour les unir justement. Mais là, il souligne que c'est deux choses qu'on unit ensemble, mais chaque chose existe indépendamment l'une de l'autre. On ne fait que les lier l'une avec l'autre. Et le lien le plus profond, c'est l'union véritable, la fusion vraiment entre l'âme juive et le Saint béni soit-il, ce niveau-là que Rabbi Shimon Bar Yochai est parvenu à atteindre. Donc cette fusion-là avec le Saint béni soit-il, ça révèle du caractère le plus élevé de l'âme divine, c'est l'essence de l'âme juive. Donc cette essence-là, l'essence de l'âme, elle est au centre même de la délivrance, puisque le Rabbi nous dit dans de nombreux discours chassidiques que c'est en révélant la force de l'essence de l'âme dans nos pensées, nos paroles et nos actes, dans notre intellect, dans nos sentiments et dans notre action proprement dite, qu'on parvient vraiment à susciter, à réveiller le désir de Dieu, de dévoiler le Machiav enfin, et de délivrer tout le peuple juif, de délivrer le monde entier pour un Shabbat éternel. Donc ce dévoilement, le dévoilement de l'essence elle-même, elle est allusionnée dans le Dvar Malchut de la Paracha est mort, puisque c'est un sujet qui va reprendre ce qu'on a étudié déjà la semaine précédente. C'est le sujet d'introduire la lettre Aleph, ce qui représente Aloufo Shel Olam, le maître du monde, dans le mot Gola. Le mot Gola, ça signifie l'exil. Quand on ajoute la lettre Aleph au mot Gola, alors on arrive à la Geoula. Alors, ce qu'on a étudié déjà la semaine dernière, c'était le fait que l'exil lui-même, il représente une partie de la délivrance. C'est pas quelque chose qu'on doit rejeter complètement, c'est quelque chose qu'on doit juste transformer en ajoutant la lettre Aleph. Alors, le Rabbi, dans la Parashat Emor, nous donne, dans le Dvar Malchut, donc, trois significations de la lettre Aleph. La première, c'est Aloufo Shel Olam, c'est-à-dire qu'on doit faire savoir au peuple du monde, et on doit faire savoir même au sein même de notre communauté, à nos enfants, à nos proches, que Dieu, Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde et que tout dépend de sa parole, que l'existence, elle n'est rien, puisqu'elle elle provient, l'existence, la réalité, elle provient du souffle d'Hachem, du souffle du maître du monde. Donc c'est ça, la lettre Aleph. La deuxième signification de la lettre Aleph, c'est Ulpena, c'est Alpha. Alpha Aleph, la lettre Aleph, c'est le Ulpena, ça signifie l'enseignement de la Torah. Donc évidemment, la délivrance, elle dépend de notre étude de la Torah. Et enfin, la troisième signification de la lettre Aleph, c'est que les lettres du mot Aleph, elles forment aussi le mot Pélé. Le mot Pélé, ça signifie, c'est le miracle. Donc on doit avoir une attitude miraculeuse, c'était cette attitude-là que le Rabbi développe pendant tout le mois de Nissan. Donc on doit poursuivre cette recherche-là, le fait de dévoiler le miracle. Le miracle, c'est précisément dévoiler l'essence divine, Et de quelle manière? C'est par notre étude de la Torah et surtout par l'étude de l'essence de la Torah. Donc vraiment, on voit que ce jour-là de Hag Bomer, il représente l'âme de la Torah, la profondeur de la Torah. C'est par l'étude de la profondeur de la Torah, de l'essence de la Torah, de la Chassidut, qu'on parvient à dévoiler l'essence de notre âme. Et à ce moment-là, quand on dévoile l'essence de notre âme, alors on agit dans le monde, on parvient à transformer l'obscurité en lumière, transformer le mot Gola en le mot Geoula. Alors, l'idée même, cette idée-là qui est essentielle, l'idée de comprendre que l'exil fait partie de la délivrance et nous amène à la délivrance, alors on pourrait se donner l'exemple ici de l'enseignement du Rabbi Rachab. Dans un de ses discours chassidiques, le Rabbi Rachab explique que il y a certaines personnes qui ont du mal à étudier la Torah, qui ont du mal à comprendre la Torah, qui ont du mal à comprendre vraiment au moment où ils étudient. Et il donne la raison elle est simple, c'est que autour du cerveau, il y a une membrane qui entoure le cerveau, en hébreu on dit krum. Cette membrane-là, chez ces personnes-là, qui ont du mal à étudier, en fait, la membrane qui entoure leur cerveau, elle est épaisse. Donc, quand ils étudient la Torah, ils ont une difficulté à percer cette membrane. C'est-à-dire que leur raisonnement, il se trouve arrêté, il se trouve limité par la membrane de leur cerveau. Et par l'enseignement auquel ils réfléchissent, il est comme arrêté véritablement, et il parvient pas à sortir, c'est-à-dire vraiment à trouver son impulsion, à trouver un développement, à favoriser l'analyse de manière même à ce que la lumière du cerveau, elle illumine ensuite leur cœur, et qu'ensuite, quand on ressent justement l'objet de notre étude dans le cœur, c'est qu'on a véritablement compris notre étude, et qu'elle nous amène de manière concrète à agir. C'est-à-dire que nos actes, ils doivent sans arrêt être le témoin, faire l'écho de l'étude qui précède notre action. Alors, ce dévoilement de lumière, il est donc arrêté par cette membrane. Alors, le Rabbi Rachab nous enseigne que une personne qui comprend facilement la Torah, au moment où il étudie la Torah, il a aucun mal à comprendre du premier coup ce qu'il étudie. Eh bien, en réalité, il va beaucoup moins loin que celui qui a des difficultés. Parce qu'une personne qui a des difficultés à comprendre la Torah, et qui va même s'ajouter des difficultés supérieures, c'est-à-dire qu'il va se poser des questions, il va poser des couchottes, comme on dit, des difficultés, au moment de son étude, en fait, plus il va se poser de difficultés, plus il va parvenir à des dévoilements supérieurs. Et donc, ça veut dire que, concrètement, cette membrane qui entoure le cerveau, et qui constitue comme un mur, qui nous empêche d'aller loin dans notre compréhension, si on parvient justement à combattre cette membrane vraiment, de quelle manière? En étudiant de manière profonde, en étant vraiment cette qualité de tmidout, de persévérance, et de parvenir par nos efforts à comprendre, et quand même si c'est pas du premier coup justement, c'est ça le point qui est donné ici. Donc ce qu'on voit ici dans cet enseignement du Rabbi Rachab, c'est que la membrane, finalement, ça représente le Shem Elohim, ça représente l'exil. Alors que la lumière du cerveau, vraiment la lumière, quand on réfléchit, cette lumière du concept divin qui se cache dans les mots de la Torah, qui sont les mots de Dieu, cette lumière-là qui a du mal à traverser, quand on étudie vraiment, ça représente cette lumière d'Avayé, la lumière même, l'essence divine qui se cache dans la nature. Donc la nature elle-même, elle représente cette membrane. L'exil, la galoute dans laquelle on vit, les épreuves qu'on peut vivre tout au long de notre existence, finalement ça représente cette membrane qui entoure le cerveau. Et si on a cette capacité de lutter, alors on parvient à des dévoilements supérieurs. Donc ça s'accorde parfaitement à l'enseignement du Dvar Malchut, non seulement de la semaine dernière, mais aussi de cette semaine, puisque on voit très bien que l'exil, il fait partie de la délivrance. C'est par l'exil qu'on parvient, c'est au moyen de l'exil, c'est en utilisant l'exil qu'on parvient finalement à le transformer en le mot Geoula, la Geoula. Alors il y a un autre enseignement du Rabbi Rachab, qui nous enseigne que Dieu, il s'est caché justement dans ce monde, et comme un père qui se cache de son fils et qui espère que son fils, il va le retrouver. Donc on voit que le père, il regarde son fils qui est en train de le chercher. Et si on voit le fils qui se désespère de le trouver, qui s'arrête, c'est ça le plus grave, qui s'arrête de le chercher, évidemment, ça va causer le malheur de son père, sa tristesse. Par contre, si on voit le fils qui s'attache vraiment à chercher son père de toutes ses forces, alors ça provoque un amour de Dieu vis-à-vis de son fils, du Père vis-à-vis de son fils, qui est le double, le triple, qui est infiniment plus grand que l'amour qu'il ressentait au départ. À partir du moment où le Saint béni soit-il, il voit un juif qui traverse les épreuves de son existence sans perdre, justement, en révélant tout le temps le lien qui l'unit à lui, alors il va lui dévoiler un amour immense. C'est précisément ça le sujet qui nous importe aujourd'hui. Puisque l'exemple qui est donné par le Rabbi Rachab, c'est quand on voit le fils qui recherche son père, il donne l'image du fils qui est en train de chercher les pas, les traces de pas de son père dans le sol. Et il voit comme ça les traces de son père qui sont dans le sol, et il va commencer à suivre les traces de son père jusqu'à le trouver finalement. Donc c'est ces empreintes-là qui vont le guider jusqu'à son père. Qu'est-ce que ça signifie, les empreintes? Ça signifie qu'un juif, quand il cherche son père, justement, qui est dans le ciel, quand il cherche Hachem, quand il cherche la délivrance, quand il cherche vraiment de toutes ses forces à provoquer le dévoilement du Mashiach, il peut arriver qu'il ressente pas dans son cœur un amour dévoilé pour Hachem. Parce que, justement, il y a cette membrane qui n'est pas seulement autour du cerveau, on voit aussi qu'elle existe autour du cœur, cette membrane qui l'empêche de ressentir vraiment un amour pour Dieu qui est très fort. Pourquoi? Parce qu'il a tellement d'épreuves, et puis même des fois il doit faire face à des désirs, les désirs de son âme animale, et qui constituent un voile qui entoure, puisqu'on sait que l'âme divine, elle est prisonnière de l'âme animale, elle est prisonnière du corps, et donc elle est en exil, elle est comme dans une prison, comme à l'image du cerveau, donc la membrane qui entoure le cerveau, et donc le cœur lui-même aussi qui est prisonnier. Donc le fils qui va chercher et qui va observer les empreintes de pas de son père sur le sol, et qui va suivre les traces de son père, ça représente ce juif qui continue à avancer, même s'il n'a pas d'amour révélé dans son cœur, même s'il connaît, il a des sentiments qui le poussent à la tristesse, Chas v'shalom, il va malgré tout continuer et s'attacher à suivre les traces de son père. Alors évidemment, suivre les traces de son père, ça signifie s'attacher à la prière, à la tefila, à l'étude de la Torah, et en particulier, donc aujourd'hui on met l'accent sur la profondeur de la Torah, l'âme de la Torah, et aussi la tzedaka. L'étude de la Torah, les mitzvot, gmilut hasadim, les bonnes actions, le fait vraiment de s'attacher à l'étude de manière profonde, c'est ça, suivre les traces de son père. Alors, qu'est-ce qu'il obtient en retour par rapport à cette démarche-là, par rapport au fait que l'enfant, il va suivre les traces de son père, l'Assemblée d'Israël, elle va s'attacher à la prière, s'attacher à l'étude, s'attacher aux mitzvot. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque que Dieu, il va révéler dans le cœur de son fils, dans le cœur de l'Assemblée d'Israël, un amour qui dépasse toutes les limites. Ava Rabba, le grand amour. C'est-à-dire que quand on dit qu'il dépasse les limites, ça veut dire qu'il dépasse l'habitude. Le sentiment habituel qu'on peut ressentir dans le cœur, il est limité. Mais quand on reçoit un amour infini, ça signifie non pas qu'il est infini dans le sens littéral, mais ça signifie que Dieu, il va élargir notre tente, il va élargir notre cœur, il va lui permettre de contenir un amour qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. À l'exemple de cette âme yétera, l'âme supplémentaire qu'on reçoit le jour du Shabbat, entre la prière de Mincha et la prière d'Arvit, c'est justement cet amour-là dont il est question, Ahava Rabba. L'amour Hazaken l'a défini comme, il a donné l'exemple que à l'époque où on apportait un sacrifice dans le temple, alors il y avait un lion, qui est un feu qui descendait du ciel, ce feu il avait la forme d'un lion, et il descendait pour consumer le sacrifice qu'un juif il apportait au Beth Amikdash. Ce signe-là, c'était l'expression véritable de la reconnaissance de Dieu qui agréait le sacrifice de ce juif. Mais dans l'étude de la partie profonde de la Torah, l'Admor Hazaken nous enseigne que ce feu qui a la forme d'un lion, ça représente Ahava Rabba, le grand amour pour Dieu. Ce grand amour que Dieu il va donner à son fils, parce que son fils il s'est attaché à suivre les traces de son père, parce qu'il s'est attaché au commandement divin, même s'il n'avait pas un amour qui est révélé dans son cœur, un grand amour révélé dans son cœur. Et bien malgré tout, en échange, comme salaire vraiment de ses efforts, il va recevoir un amour cette fois-ci qui va se révéler non pas de manière limitée, mais de manière illimitée, un grand amour pour Dieu, un amour infini pour Dieu. Et cet amour-là, il se révèle au moment entre la prière de Mincha et d'Arvit, qui précède la sortie du Shabbat, Razin des Razin, comme l'a défini le Harizal, c'est le dévoilement vraiment de Ahava Rabba, de ce lion de feu, de cet amour, de ce grand amour qui se dévoile dans le cœur d'un juif. Donc on voit donc, si on fait le lien dans tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est que le feu même, le feu de l'Akba Omer, le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai, L'Amrazaken nous dit qu'il y a deux sortes de feu. Il y a le feu d'une bougie qui s'attache, la flamme elle va s'attacher à une fine mèche. Et puis il y a aussi le feu qui s'attache à des morceaux de bois. Un feu qui, quand on allume un feu et qu'on rassemble des gros morceaux de bois pour faire brûler ce feu-là. Pourquoi ? Parce que le feu, il a besoin d'être accroché à une chose. Il a besoin, sinon il va retourner à sa source. À partir du moment où il y a un bout de bois qui peut l'accrocher, alors il va s'accrocher à ce morceau de bois. Donc on voit la différence qui existe entre une flamme et un feu, c'est que la flamme elle s'attache à une fine mèche, et donc cette fine mèche ça représente la marchava, alors que le feu qui est plus grossier, qui s'attache à des gros morceaux de bois, ça représente le mas et l'action concrète. Et la Morazaken nous dit donc qu'on a besoin de ces deux choses, on a besoin d'unir l'action à la marchava. On a besoin vraiment de purifier les vêtements de notre âme, qu'il s'agisse de nos pensées, nos paroles et nos actes. On a besoin de s'attacher à suivre les traces de notre Père, vraiment qui est dans le ciel, en accomplissant les commandements divins, même si on ne ressent pas un amour révélé dans le cœur. Malgré tout, on doit savoir qu'au bout, on parvient au dévoilement de l'essence, on parvient au dévoilement de cet grand amour pour Dieu. Alors, on arrive maintenant à la fin. On s'approche de la fin du Sefirat HaOmer, et on doit savoir que, on se rappelle que, à quel point le Rabbi Rachab, il a insisté sur le fait que le Nigoun qui précède le Mahamar, il est important, puisqu'il fait partie du Mahamar. Quand le Rabbi dit un Mahamar, on doit chanter avant ce Mahamar-là en particulier, et ensuite, on s'est préparé vraiment de manière véritable à recevoir les paroles du Rabbi. D'une certaine manière, on voit que Sefirat HaOmer, c'est comme ce Nigoun qu'on chante avant de recevoir le Mahamar de Dieu, le don de la Torah de Dieu. Et donc, le Sefirat HaOmer, le conte de l'Omer, il précède ce jour de Shavuot. Et on doit s'attacher de manière vraiment profonde, considérer que c'est même pas une préparation au jour de Shavuot, ça fait partie du jour de Shavuot. Et donc, on doit comprendre que toute notre vie, finalement, ça ressemble à Sefirat HaOmer. Toute notre vie, on s'attache vraiment à purifier notre âme animale, à raffiner le corps, pour en faire un réceptacle, un écrin capable de contenir un diamant, capable de recevoir le Mahamar du Rabbi, capable de recevoir le Mahamar de Dieu, le Mahamar de Dieu que Dieu y révélera au moment du don de la Torah, Hadasha, par l'intermédiaire du Mashiach, avec l'aide d'Hachem dès à présent. Shabbat Shalom et Vorar, et ce jour de l'Agba Omer, qui soit pour chacun un dévoilement vraiment d'une force infinie, pour continuer et provoquer vraiment de toutes nos forces le dévoilement du Mashiach dès à présent. Shabbat Shalom et Vorar.